Et donc nous sommes toujours sur une émission de Sortir du capitalisme
consacrée aujourd'hui à, aux racines historiques du national-socialisme. Et nous sommes toujours avec Paul de la Critique de la Valeur, notre invité aujourd'hui, pour parler dans cette deuxième partie d'émission des racines intellectuelles de Mein Kampf à partir du numéro de la revue d'histoire de la Shoah sur le sujet, le numéro 208 qui était paru donc en mars 2018. Donc on va toujours parler de racines intellectuelles, mais on va avancer dans le temps d'une certaine manière, puisqu'on s'était concentré sur la période d'avant 1914 dans la première partie de l'émission. On renvoie également sur toute la contextualisation historique à la première partie. Là, on va vraiment se concentrer vraiment sur Mein Kampf, même si on peut déjà dire un premier mot de Mein Kampf, donc qui est écrit par Hitler en prison entre 1923 et 1924. Ça sort en 1925, puisque Hitler a été emprisonné suite à l'échec d'un putsch en 1923. Un putsch dont l'échec aura une importance cruciale dans l'évolution du parti national-socialiste, puisque c'est l'échec de ce putsch qui va entraîner une modification de la stratégie pour arriver au pouvoir de la part du parti nazi, qui va désormais se consacrer aux élections pour essayer d'arriver au pouvoir, ce qui vont finalement arriver, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, en janvier 1933. Donc parlons maintenant de ces racines intellectuelles de Mein Kampf en disant une première chose, c'est que l'historiographie ne sait pas non plus de manière exacte quelles sont toutes les références de Hitler, quand est-ce qu'il les a lues.
Il donnait pas ses sources, il citait extrêmement rarement des personnes. Je pense que ça faisait partie de son personnage, il mélangeait un peu tout. Mais là, dans cette revue, ils ont fait un travail qui est en partie un peu fastidieux à lire, puisqu'il s'agit un peu de philologie, de comparer des textes, qu'est-ce qui est, et donc de trouver l'influence des auteurs. Il y en a très très peu qui sont cités nommément. Il y en a un tout petit peu, mais c'est très rare.
C'est principalement, je crois, Feder qui, oui, lui est cité, peut-être Wagner aussi.
Oui, Wagner certainement, mais Wagner c'est un peu plus lointain dans le temps, quoi, déjà aussi, et moins politique, quoi. Ça fait plus partie du soubassement idéologique, quoi. Ce numéro de la revue, elle est séparée en deux parties, comme tu l'as déjà dit. En gros, une première partie qui va traiter des influences jusqu'à la première guerre, jusqu'en 14, et ensuite la deuxième partie, des influences qui va intégrer dans l'écriture de Mein Kampf d'après la défaite, qui est donc effectivement un des événements clés de l'arrivée, de l'ascension du nazisme et plus tard aussi de l'arrivée au pouvoir. Voilà, il y a quand même deux événements qu'il faut citer si on veut parler de l'arrivée au pouvoir des nazis, c'est donc la défaite de la Première Guerre mondiale et de leur point de vue, du point de vue des nationalistes allemands, la honte du traité de Versailles, qui va être énormément utilisé politiquement. Et deuxième moment très important pour l'arrivée au pouvoir des nazis, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est la crise de 1929 et l'hyperinflation en Allemagne, quoi. Parce que le parti nazi, avant 1929, il fait très très peu de voix, il va augmenter par 10 à peu près son score entre 1928 et 1932, quoi. 1932, où il va devenir le premier parti. Là, on parle beaucoup des origines intellectuelles de ce mouvement et de l'important. On a parlé tout le début de l'émission de l'importance du mouvement Völkisch, mais voilà, il y a aussi ces événements historiques spécifiques qui vont amener finalement à la prise du pouvoir du parti nazi, quoi. Donc la première partie jusqu'à 1914, on a pas mal parlé dans le début de l'émission. La grosse influence qu'on va trouver dans Mein Kampf, c'est toute l'idéologie du mouvement Völkisch sur l'invention des peuples indo-européens, indo-germaniques pour les Allemands, mythologie inventée d'une origine unique du peuple. Et ça, c'est des travaux qui ont démarré avec des linguistes, en fait, qui n'étaient pas du tout dans la démarche du national-socialisme, mais qui ont été repris par les nationaux-socialistes pour s'inventer grosso modo une mythologie nationale, qui vont ensuite essayer de définir où est-ce que les Aryens viendraient d'origine, où c'est que les blonds aux yeux bleus, les grands types, qui ne correspondent pas du tout ni à Hitler, ni à Goebbels, ni aux autres, mais d'où ils viendraient. Et donc, grosso modo, ils vont décider qu'ils viendraient du nord de l'Europe.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans la première partie de l'émission, mais je trouve qu'un élément assez intéressant de l'idéologie Völkisch, qui va être repris ensuite par les nationaux-socialistes, c'est cette idée, finalement, que tout ce qui était de grand dans l'humanité, c'est allemand, en fait. Donc, par exemple, ils vont dire que les Grecs étaient des Germains, ce qui est quand même un petit peu étrange. et que en fait tout ce qui avait de grand dans même dans la culture romaine était en fait germain, et que les germains sont arrivés au 4e 5e siècle pour sauver l'humanité de la décadence romaine. Donc on voit que il y a aussi voilà ce mythe donc voilà d'un peuple originaire qui de tout temps sauver l'humanité, et évidemment ça fait penser aussi à la dimension un peu messianique du national-socialisme et à la notion de Saul Freelander, de voilà d'antisémitisme rédempteur, que finalement il y aurait un destin du peuple aryen depuis ses origines, voilà, qui aurait créé la culture humaine romaine grec, qui aurait sauvé l'humanité de la décadence romaine et qui reviendrait enfin au XXe siècle pour sauver l'humanité de la domination juive.
Je pense qu'il y a quelque chose de juste dans ce concept, hein. Il y a de Friedlander sur l'antisémitisme rédempteur. Il y a effectivement, parce qu'on le voit plus tard dans le cours de la guerre, hein, on pourrait dire dans la Seconde Guerre, qui avait l'objectif de gagner de la guerre et de dominer l'Europe et le monde, mais que l'autre objectif était de détruire les Juifs d'Europe. Et qu'on voit très clairement dans la deuxième phase de la guerre que c'est le deuxième objectif qui va prendre le dessus. Et Hitler, il va dire, même si je n'ai pas gagné la guerre, au moins j'ai libéré l'humanité de ce fardeau du peuple juif.
Oui, ça, je pense que c'est intéressant, bon, même si on ne va pas revenir trop là-dessus, puisqu'on a déjà consacré une émission à ce sujet avec toi. Mais c'est vrai qu'on voit bien que, même si cette émission peut paraître très idéologique, que s'il y a bien un mouvement politique où l'idéologie a quand même eu une importance cruciale, c'est bien le national-socialisme. Et qu'une analyse matérialiste du national-socialisme est tout à fait possible, souhaitable et, à mon avis, très intéressante. Mais que, malgré tout, c'est sans doute un mouvement où l'étude de l'idéologie a quand même un intérêt voilà, très fort et qu'on n'est pas dans un opportunisme pur. Et on le voit bien, d'ailleurs, à la fin de la guerre, où finalement, voilà, c'est l'idéologie qui prend le pas sur le reste, en fait, sur toute forme de rationalité, ce qui fait que effectivement, l'Allemagne, plutôt que d'essayer quand même de gagner la guerre, va en fait, voilà, s'acharner à essayer de détruire tous les Juifs d'Europe, quoi.
Ouais, puis avec ce point-là, on peut aussi se distancer des approches qui existaient dans les années 70, par exemple, dans l'ultra-gauche, en partie aussi, d'expliquer l'extermination des Juifs par des motifs utilitaristes, matériels et de profit. Évidemment, qu'on ne va pas nier que ça a existé et qu'on a tiré profit de l'expropriation des Juifs, mais clairement, on ne peut pas inscrire la destruction des Juifs d'Europe dans un but de gain tactique et de matériel, quoi.
Non, c'est clair.
Donc pour revenir un peu sur les influences, donc voilà, le mouvement Völkisch, on en a parlé assez longuement, donc ça évidemment c'est l'arrière-fond de la pensée de Hitler, le Blut und Boden, le sang et la terre. Et il y a une influence qu'on a assez peu parlé, c'est celle de Wagner et ce qu'il faut appeler un peu plus généralement le cercle de Bayreuth. Donc Wagner, il travaillait à Bayreuth. Et là, il y avait toute une série d'intellectuels, dont notamment Chamberlain, qui est d'origine anglaise, mais qui a vécu en France et ensuite en Allemagne, qui, lui, vraiment développe une pensée völkisch, antisémite, raciale, d'hygiène raciale très virulente. Wagner lui-même aussi, on peut dire qu'il, d'une certaine manière, il a écrit plusieurs textes très fortement antisémites, dont un sur l'influence juive dans la culture, et qui est un pamphlet antisémite sur l'influence juive, et dans lesquels il prend clairement position que le juif ne peut finalement pas s'intégrer à l'Allemagne, ce n'est pas possible, quoi, qu'il reste quand même un corps étranger.
C'est important, effectivement, d'avoir rappelé l'importance de Chamberlain, parce qu'effectivement, c'est, malgré le fait qu'il soit anglais, c'est un des penseurs majeurs de l'idéologie völkisch, sans doute une des références principales de l'idéologie national-socialiste, avec un penchant, effectivement, racialiste extrêmement fort, l'idée de la lutte des races, et aussi, par contraste, par exemple, avec Gobineau, qui était beaucoup sur un pessimisme racial, c'est-à-dire les races vont se mélanger, elles sont déjà altérées, tout est fini. Lui, au contraire, il a plutôt une espèce d'optimisme racial, où il pense que, non, les Aryens vont réussir à se débarrasser du métissage, et vont, à travers la lutte des races contre le juif, sauver l'humanité, la culture, etc. Des idées qu'on retrouve dans le chapitre Peuple et race de Mein Kampf, où on retrouve un peu les principales idées de Chamberlain, mais plus largement de l'idéologie volkiche. Donc il y a l'idée qu'il va y avoir une dégénérescence de la race par métissage, et donc il faut un programme de pureté raciale, et il faut un État germanique qui lutte pour cette pureté raciale, parce que sinon il va y avoir une dégénérescence de la race. Alors le rapport à Darwin est un petit peu compliqué des nazis, il faut quand même le dire. Ce que j'allais dire, il y a une forme de darwinisme racial, mais en fait c'est plus compliqué que ça, parce que par exemple les nazis réfutent l'idée d'évolution pour une raison très simple, c'est que s'il y a une évolution, ça veut dire que la race aryenne n'a pas toujours été identique à elle-même. Et ils reprennent plutôt l'idée seulement de la lutte des races, qui n'est pas vraiment présente chez Darwin. Donc, effectivement, encore une fois, on voit que le darwinisme n'est pas forcément identique à la pensée de Darwin, mais chez les nazis, c'est particulièrement vrai, quoi.
Oui, et l'Allemagne, par exemple, a créé en 1923 la première chaire d'hygiène raciale à l'université, la première chaire qui va exister en Europe. Donc, c'est une pensée quand même qui dépasse le cercle de quelques penseurs völkisch, quoi. Quand même dans l'air du temps assez fortement. Et effectivement, l'influence aussi d'auteurs français comme Gobineau, elle est assez importante dans la pensée de Hitler, de Mein Kampf, mais à cette différence près que tu disais que Gobineau, c'est plus un pessimisme, un constat d'échec, un constat de décadence, alors que chez Hitler, ça va plus être une volonté de combat, quoi.
Ouais, de rédemption par le combat. Ouais. Et rapidement, pour finir sur le chapitre Peuple et race de Hitler, on peut dire encore quelques éléments. Il y a évidemment toutes les métaphores hygiénistes, hein, c'est-à-dire où les juifs sont présentés comme une épidémie, un ferment bactériologique. Il y a toute une métaphore médicale qui est très importante, je pense. Et c'est là où on voit finalement que les nazis piochent dans toutes les idéologies scientifiques qui se développent à cette époque, les idéologies biologiques, les idéologies médicales, hygiénistes, etc., etc., qui là est déjà présent dans la pensée volkisch, mais qui, je trouve, dans le national-socialisme, pourrait quand même une ampleur encore plus forte, qui est liée aussi au fait que ces métaphores médicales, elles s'imposent un peu plus tard que le début de la pensée volkisch, qui est moins marquée par ces métaphores, même si on en trouve de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire. Et après, peut-être autre chose, Hitler est quand même beaucoup influencé par un penseur qui s'appelle Eckhart, qui va devenir en 1921 le rédacteur du Volkischer Beobachter, qui est l'organe de presse du parti nazi, et qui va écrire un ouvrage dont je trouve le titre quand même un peu drôle, d'une certaine manière, qui s'appelle « Le bolchevisme de Moïse à Lénine ». On voit pas trop en quoi Moïse était bolchevique, mais... Et donc, où il y a vraiment cette idée un peu d'association judéo-bolchevique avec un pendant où il y a une association entre les juifs et les capitalistes. Donc évidemment, si on s'inscrit en faux contre la thèse de Nolte, comme quoi le national-socialisme serait uniquement une réaction face à la montée du bolchevisme et de la révolution, même si c'est lié en partie à ça, mais pas que, puisque... c'est aussi une réaction plus générale à la modernité, au libéralisme.
Et puis un des grands thèmes récurrents dans Mein Kampf de la part de Hitler, c'est le combat contre les Mischlings, contre tout ce qui est mélangé. Donc le mélange de races, ça c'est vraiment... il va dire par exemple que pour lui, c'est vraiment le mélange des races, c'est le péché originel. Le péché contre le sang et la race, c'est le péché originel de ce monde et marque la fin d'une humanité qui s'y adonne. Il y a aussi des côtés assez intéressants sur la religion. Parce que Hitler, effectivement, on sait qu'ils ont toujours eu, les nazis ont eu des rapports très ambivalents à l'Église. Il y a eu des moments où ils se trouvaient en opposition à l'Église catholique, par exemple au moment de l'extermination des handicapés, qui était le précurseur de l'extermination des juifs. Là, par exemple, l'Église catholique a protesté sur le principe de la défense de la vie allemande, quoi. Donc il y a eu des moments de conflit contre l'Église, mais en même temps, Hitler est lui-même quand même assez croyant. Par exemple, il va dire « En me défendant contre le juif, je combats pour défendre l'œuvre du Seigneur », phrase sortie de Mein Kampf, donc quand même une vision du monde religieux. Même si ensuite, ils vont, dans le mouvement nazi, il va avoir aussi différentes tendances. Il va avoir des tendances qui vont plus chercher du côté des religions païennes, pan-germanistes et pré-chrétiennes, en considérant aussi que la pensée chrétienne est déjà souillé par la pensée juive, quoi.
Ouais, ça effectivement c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que effectivement on pourrait avoir l'impression que le mouvement nazi est uniquement un mouvement païen, alors qu'en fait Il y a eu même dans l'idéologie völkisch des penseurs qui essayaient de se réapproprier d'une certaine manière l'héritage chrétien, soit en mettant en avant beaucoup le protestantisme, parce que le protestantisme, bon voilà, c'est Luther, et comme on l'a dit à la première partie de l'émission, Luther était un antisémite virulent. Et d'autre part, que Dieu pourrait être une figure aussi germanique, qu'il ne fallait pas forcément le laisser voilà, au monothéisme, mais que finalement on pourrait presque avoir une espèce de monothéisme arien. Voilà, mais effectivement, il y a toute une ambiguïté du mouvement national-socialiste par rapport à ça, qui ne va jamais être tranchée, ce qui permet aussi un certain opportunisme, finalement. Parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup, c'est un mouvement païen, mais si c'était un mouvement païen qui avait été trop revendiqué, il n'y aurait pas eu un vote massif de la part des protestants, et un vote quand même relativement important des catholiques pour le national-socialisme. Donc les nazis ont toujours réussi à jouer de l'ambiguïté, ils ont toujours eu un discours antisémite, qui a de ça d'intéressant, entre guillemets, qu'ils cherchent à jouer sur tous les leviers de l'antisémitisme. Par exemple, ça c'est quelque chose quand même d'assez stupéfiant, il y a quand même eu des discours nazis qui disaient que le Christ était le premier antisémite. On voit quand même l'opportunisme total. Finalement, les nazis vont quand même réussir à incorporer le christianisme par le biais en fait de l'anti-judaïsme chrétien en fait.
Et une autre permanence dans les discours de Hitler dans Mein Kampf qu'on trouve au niveau du langage, c'est la comparaison avec le monde animal, quoi. Donc, quand il va dire que les rats vivent sur les ordures, les cafards, et tout ça, ça va toujours être comparé aux juifs. Donc, la projection du juif comme nuisance, ça va être une permanence qui va traverser tout Mein Kampf, mais aussi ses discours plus tard, quoi. L'usage extrêmement prolifique de comparaison avec le règne de la nature. D'un côté, pour parler de la société, voilà, beaucoup de métaphores, quoi. Comme quoi il faut couper la branche pourrie de l'arbre, ou alors parler des juifs comme des cafards, parler les rats qui vont grouiller quand il y en a trop, ils vont mourir parce qu'il y en a trop, etc.
Oui, et par rapport à ça, c'est important de dire qu'on va chercher dans la nature un ordre racial qui serait voilà, supposément naturel, et en même temps c'est quelque chose qu'on a oublié de dire dans la première partie de l'émission, mais toute l'idéologie völkisch cherche aussi à naturaliser un certain ordre social, donc pas l'ordre social moderne qui pour eux est un ordre social pas naturel, mais ils vont chercher plutôt dans le Moyen-Âge par exemple un ordre social naturel avec voilà, un idéal des corporations. Pour eux, finalement, la petite ville avec les artisans, les maîtres, les compagnons, les apprentis, les paysans, et à la limite, voilà, les classes moyennes, type médecins et tout, font partie finalement d'un ordre naturel hiérarchique. On voit déjà au niveau des artisans, où c'est le maître qui domine le compagnon et l'apprenti qui voilà, est dans une situation de subordination complète. Et puis, le tout coiffé d'une aristocratie qui est évidemment révérée par les idéologues völkisch qui se voient eux-mêmes comme une aristocratie. Mais d'ailleurs, les nazis aussi se voient comme une aristocratie, sauf que la différence, c'est qu'ils pensent qu'il faut quand même que ça devienne un mouvement de masse. Donc finalement, que certes, ils sont des aristocrates, mais qu'il faut quand même que... Il y a une adhésion massive de la population à leur mouvement aristocratique qui finalement s'élargit, puisque finalement les SS sont censés être des aristocrates, mais finalement ça s'élargit à une part relativement importante de la population aryenne.
Et pour revenir un moment sur la religion, aussi Hitler il va affirmer dans Mein Kampf que les juifs constituent une race, c'est pas une religion. Il va leur dénier la religiosité, et en ça donc il faut aussi le voir comme son idéologie antisémite et pas anti-judaïque. Pour lui, l'argument va être que les juifs, par nature, sont matérialistes. Du coup, ils ne peuvent pas avoir une pensée de l'au-delà, ils ne peuvent pas avoir une pensée transcendante, et ils peuvent uniquement être dans le matérialisme et dans le gain quotidien.
Ouais, ça c'est important parce que c'est déjà quelque chose qu'on retrouvait dans l'idéologie völkisch. L'opposition entre l'aryen spirituel, mystique, en communion avec la nature, idéaliste, mais là pour le coup un concept qui est pensé positivement, par opposition aux juifs matérialistes, donc pas matérialistes au sens de Marx évidemment, mais au sens de préoccupés uniquement par, c'est ce que dit Mauss, par le pouvoir et l'accaparement des richesses. Une lutte très basse, contrairement aux nobles idéaux de l'Aryen.
Donc voilà, après, si on veut venir sur les d'autres influences sur Mein Kampf, on va parler d'après la guerre de 14-18. Et là, forcément, il y a plus le côté d'anticommunisme qui va rentrer dedans et qui va être assimilé à la juiverie. On va traiter tous les bolcheviques. C'est là qu'on va développer le thème du judéo-bolchevisme. Bon, on verra plus tard les caricatures nazies qui vont montrer les juifs tirer les ficelles à Moscou et à Washington. En fait, les juifs tirent par tous les ficelles. Et un des promoteurs, un de ceux qui a beaucoup poussé ce discours, c'est Alfred Rosenberg, qui est devenu un idéologue important du parti nazi, qui lui-même venait des pays baltes et qui en 1918 a fui et est arrivé à Munich dans ce milieu nationaliste extrême et a eu pas mal d'influence sur Hitler et sur le parti nazi pour en faire vraiment le cheval de bataille du nazisme, de la lutte contre le judéo-bolchevisme.
Oui, qui est aussi un motif peut-être qui a été beaucoup mis en avant, notamment pour s'attirer les faveurs du patronat, parce qu'évidemment, bon, un discours contre la modernité, contre le libéralisme, le patronat est peut-être moins réceptif.
Ça, c'est certainement beaucoup dans l'époque de Weimar.
Et d'ailleurs, dans le livre d'Éric Vuillard, qui est consacré justement au nazisme, où est mis en scène une réunion en février 1933 entre 24 grands patrons d'industrie et de la banque allemande, et Göring et Hitler, le thème principal de l'appel à ce que ces manias de l'industrie et de la banque donnent de l'argent au parti nazi, c'est parce qu'ils sont le rempart contre le bolchevisme, qui est une idéologie sincère, puisque évidemment, c'est ce qui va motiver l'invasion de l'URSS en 1941, et l'association entre les juifs et les bolcheviks va faire aussi que l'ordre d'extermination des commissaires politiques assimilés aux juifs va être une étape importante dans la destruction, dans l'extermination des juifs.
Oui, parce que cette premier ordre, il va pas s'appeler d'exterminer tous les juifs, il va s'appeler d'exterminer les commissaires politiques. Mais comme on dit que tous les commissaires politiques sont juifs, on commence à faire une espèce d'amalgame, mais c'est effectivement le début de l'extermination systématique, quoi. Et donc dans cette même période aussi devient très très important, c'est les protocoles de sages de Sion. C'est un faux historique qui a été fabriqué par les services tsaristes russes, qui met en scène une réunion donc des sages de Sion, donc des juifs qui se mettent ensemble pour discuter comment ils vont dominer le monde dans un style très calculateur et très politique, comment on va avancer nos pions pour dominer la planète. Bon, ça a été reconnu assez tôt comme un faux, puisque c'est un plagiat d'un autre texte, mais malgré ça, ça gardait à l'époque et jusqu'à aujourd'hui une large diffusion et une importance. Par exemple, quelqu'un comme Goebbels, il va dire oui, on ne sait pas si c'est un faux ou pas, mais finalement c'est pas important parce que ce qui est décrit est juste. Mais c'est devenu vraiment un motif extrêmement important dans l'idéologie nazie et ensuite aussi ailleurs sur la planète, aujourd'hui encore. Par exemple, la télévision égyptienne en a fait un feuilleton télévisé dans les années 2000 à partir des protocoles de sages de Sion, c'est quelque chose qui trouve encore aujourd'hui une large diffusion, alors qu'on sait d'où ça vient.
Oui, ça c'est important parce que finalement c'est le couronnement du conspirationnisme antisémite, c'est-à-dire voilà l'idée que derrière tous les événements mauvais du monde, les guerres, les crises, les famines, tout ce qui soi-disant nuit à la nation allemande, notamment, il y a la main des juifs, de la conspiration juive, et c'est quelque chose qu'on retrouve déjà, en fait, chez certains idéologues völkisch, qui est lié aussi à cette idée que les juifs voudraient s'assurer la domination mondiale.
Et ça a connu une diffusion, après ce qui est horrible, c'est que ça connaît encore aujourd'hui une diffusion très large. Par exemple, en 1920, c'est Henry Ford qui va largement favoriser la diffusion des protocoles de sages de Sion aux États-Unis. Selon lui, c'est quelque chose qui fournirait une bonne grille de lecture pour comprendre la révolution russe, qui est évidemment l'ennemi principal. Donc ça va être diffusé largement aux États-Unis, ça va être diffusé très largement en Allemagne, et cette pensée conspirationniste, elle est très largement reprise dans Mein Kampf.
Ouais, et justement, puisqu'on parlait de Henry Ford, il faut quand même dire quelque chose d'Henry Ford, parce que c'est quand même effectivement fascinant que le plus grand capitaliste industriel américain soit un des principaux promoteurs mondiaux de l'antisémitisme. Il va recevoir en 1938 la plus haute distinction du Troisième Reich de la part du consul allemand de Détroit. Et principalement pour sa diffusion d'un message antisémite, notamment à travers un journal qui publie Le Juif International, je crois, et qui diffuse une propagande antisémite qui assimile la banque, la finance, la réserve fédérale américaine, tout ce qui n'est pas finalement l'industrie et l'agriculture à un complot juif. Ça peut trouver évidemment ses origines dans le fait qu'il est lui-même un capitaliste industriel qui est opposé en tant que capitaliste industriel aux intérêts des banques qui lui prêtent de l'argent. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. C'est vraiment un antisémitisme virulent.
Oui, je pense que l'exemple de Ford, il est intéressant pour montrer ce que nous on appelle de l'anticapitalisme tronqué. Les nazis se considèrent comme anticapitalistes, ils vont tenir un discours anticapitaliste, alors qu'ils vont moderniser l'industrie, Krupp, Thyssen, IG Farben, c'est des énormes complexes industriels. Ford se disait lui-même anticapitaliste, et ça paraît évidemment totalement incroyable. Mais après, il va l'expliquer, parce qu'il va dire, moi je fais travailler des gens, moi dans mes usines, je donne du travail à des gens, et ils sont salariés pour ça. Donc moi je suis un honnête homme, les capitalistes, c'est les banquiers juifs à Wall Street. Le slogan, un des gros slogans des nazis, c'était le « schaffendes Kapital gegen raffendes Kapital », le capital qui travaille contre le capital usurier, parce qu'on a parlé un peu de ça dans la première partie de l'émission, comment les nazis ils ont positivé l'industrie, alors que d'origine le mouvement Völkisch était plutôt anti-industriel. On voit comment s'opère ce changement à travers, on coupe le capitalisme en deux, entre d'un côté la production et de l'autre côté le monde de la finance, en faisant comme si c'était deux choses séparées. Et Ford, il va aller aussi loin de dire, il y en a un, c'est même pas du capitalisme, il n'y a que l'autre qui est du capitalisme, l'un c'est le travail et l'usine. Et l'autre, c'est la finance, c'est le capitalisme. Voilà, c'est vraiment un exemple assez marquant de ce qu'on peut appeler un anticapitalisme tronqué. Et pour ceux que ça intéresse, pour approfondir cette question, on peut vivement conseiller la lecture de Moïse Postone, qui analyse cette question plus d'un point de vue théorique et qui va essayer de creuser la question comment les nazis ont pu se considérer comme anticapitalistes et quand même favoriser l'industrie.
Oui, non, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et puisqu'on parle justement d'anticapitalisme tronqué, il y a également Gottfried Feder qui va exercer une influence assez importante sur Hitler et sur le national-socialisme, avec l'idée de Feder que finalement le problème c'est l'intérêt. Voilà, donc il parle d'esclavage de la dette, d'esclavage de l'intérêt, d'où une certaine obsession de l'extrême droite jusqu'à aujourd'hui sur la question de la dette, qui est évidemment un problème, qui est un vrai problème, mais où finalement l'intérêt serait la seule forme d'exploitation. Et pas le profit industriel. Le profit industriel n'est plus une forme d'exploitation. Selon Feder, c'est uniquement l'intérêt, l'usure. Et évidemment, l'usure historiquement est associée aux juifs. Donc finalement, ceux qui sont responsables de l'esclavage, de la dette, de l'intérêt, ce sont les juifs pour Feder. Et on retrouve bien effectivement cette opposition manichéenne entre une bonne industrie capitaliste et une mauvaise finance capitaliste. Même si là-dessus, ce qu'on pourrait nuancer, c'est que finalement, il y a aussi une bonne finance qui finance l'industrie allemande, qui est elle-même allemande et qui œuvre au bien de la nation. Parce que bon, pragmatiquement, il y a quand même besoin de finance dans le capitalisme. Et une mauvaise finance spéculatrice, rapace, cosmopolite, qui est, elle, systématiquement associée aux juifs.
Oui, c'est Feder qui a vraiment développé pour Hitler, ou donné les impulsions théoriques, aussi en termes de terminologie, de cette idée qu'il y a un bon capital qui est celui qui travaille et un mauvais capital. Et on trouvera aussi des oppositions, soi-disant de gauche, par rapport à ça aussi, avec des gens comme Silvio Gesell qui vont développer tous ces concepts de monnaie fondante, qui lui va se démarquer de l'antisémitisme quand même, mais qui quand même vont un peu dans la même ligne de considérer qu'il y aurait capitalisme sain si on se débarrasserait de l'usure, quoi.
Oui, alors que évidemment, bon, la finance fait partie du capitalisme et qu'on peut pas en enlever une partie sans tout enlever, quoi.
Oui, c'est des gens chez qui, par exemple, il n'y a pas de critique du travail en soi, quoi. Oui. Donc ça, c'est une critique qui reste comme on en trouve, par exemple, beaucoup aujourd'hui, qui vont critiquer uniquement le néolibéralisme, mais pas les catégories de base du capitalisme.
Oui, je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà, donc évidemment, les gens qui sont intéressés par plus de détails, on les invite à lire ce volumineux numéro de la revue d'histoire de la Shoah, Les racines intellectuelles de Mein Kampf, où il y a également d'autres influences qui sont évoquées, dont on n'a pas parlé, celle de Nietzsche notamment. Donc on espère que cette émission vous aura intéressé, et on vous invite à écouter en complément notre émission sur la destruction des Juifs d'Europe. Donc merci Paul.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.